7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Quel plaisir de vous retrouver en direct. Aujourd'hui, on parle de la maison individuelle. Rêve ou cauchemar pour les villes? C'est un rêve quasi universel jusque dans les périphéries des villes, en tout cas de posséder son chez-soi, sa propre maison. En France, 56% des logements sont des maisons individuelles. Aux États-Unis, certains s'interrogent sur le mythe des banlieues résidentielles qui ont fait la grandeur de l'Amérique et le confort. Et en Afrique, les villes s'étalent inexorablement. Alors, quelles conséquences sur la vie quotidienne des habitants, sur le temps de trajet pour aller travailler, sur les besoins de transport en commun, sur les surfaces agricoles à la périphérie des villes? Quelle durabilité aussi pour ces maisons? Nous allons en discuter avec nos invités. Armelle Choplin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes urbaniste à l'Université de Genève. Alors vous êtes spécialiste de l'habitat en Afrique et vous êtes en liaison avec nous grâce aux moyens techniques de la radio-télévision suisse romande. Cynthia Gora-Gobin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Vous êtes spécialiste des villes américaines et vous avez publié La métropolisation en question. La métropolisation, ben ce sont des villes qui se touchent, hein, qui sont à touche-touche et donc qui n'en finissent pas. Et Christine Lecomte également avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'Ordre des architectes d'Île-de-France et vous êtes spécialiste de l'étalement urbain et des lotissements. Nous serons également en ligne avec Boubacar Willy, qui est coordinateur du programme de l'association La Voûte Nubienne au Burkina Faso, qui est une ONG qui propose de construire avec des matériaux différents pour des habitations plus fraîches, plus durables. Et également, on fera le point avec Maggie Casal, qui est présidente de l'ONG Urbanistes sans frontières. On évoquera le forum Afrique Ville Durable qui se tient la semaine prochaine à Paris en vue de la préparation du sommet Afrique-France de 2020 qui portera sur la ville durable. Et ça aussi, c'est inédit. Preuve que tout de même, il se passe quelque chose dans les consciences et qu'on commence à se poser des questions sur notre habitat dans le monde entier. Les voisins, les voisines, appelez-nous pour participer aux discussions. Dites-nous déjà dans quoi vous vivez. Maison, appartement, quels sont les problèmes de logement dans votre ville? La croissance urbaine dans certaines villes d'Afrique, on sait que ça va doubler d'ici 10 ans en nombre d'habitants. Cette croissance pourra-t-elle supporter les demandes de maisons et de parcelles? Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le téléphone WhatsApp sur lequel vous pouvez poster des messages. Allez, je vous lis quelques réactions à notre sujet. Afi à Kinshasa en RDC qui dit « Moi, je rêve d'avoir un jour ma maison. Une maison que j'aurais pensée, dont j'aurais conçu le plan, dont je verrais la construction. J'aménagerais. » Alors, elle parle au conditionnel, hein, « L'intérieur et l'extérieur, je la ferais seule parce que je suis architecte d'intérieur, j'ai fait les beaux-arts. » J'ai souvent aménagé des maisons pour des clients et la mienne, je la ferai avec tout ce que j'ai. Elle sera un modèle et chaque personne qui y entrera sera éblouie. Mais il n'y a pas besoin d'être architecte pour avoir ce type de témoignage, non? Vous ne trouvez pas, finalement, d'une certaine manière, Christine Lecomte, plus tard j'aurai ma maison?
En fait, plus tard j'aurai mon espace à moi. J'aurai quelque chose qui correspond à mes aspirations de vie. C'est ça qui est important à retenir chez cette auditrice, chez cet auditeur.
Et je vous lis aussi le message de Mamadou à Thiès au Sénégal qui nous dit « La maison est une source d'ennui pour moi. Moi, j'ai emprunté pour acheter le terrain. Puis après avoir remboursé, j'ai emprunté pour construire ma maison, que je paye encore. Entre-temps, les enfants ont grandi. Je dois emprunter pour payer l'école. J'aurais dû réfléchir et ne penser qu'à l'éducation de mes enfants. » Cynthia Gora-Gobin, vous ne connaissez pas spécialement le contexte africain. Vous êtes spécialiste des villes américaines. Est-ce que ce témoignage, ça pourrait aussi être un témoignage d'un Américain?
Oui, ça pourrait être le témoignage d'un Américain.
J'entends, au lieu d'un Africain.
Oui, tout à fait, pour la génération actuelle. Effectivement, les ménages dont les parents, dont les enfants sont partis, sont partis parce qu'ils ont grandi et ils sont allés à l'université où ils ont trouvé un travail, eh bien, se retrouvent avec une grande maison et puis avec une maison plutôt vide. Donc, eux aussi ont un petit peu, si vous voulez, ce sentiment que la maison, c'est peut-être à une fin, peut-être, hein, une phase de la vie et que ce n'est pas pour toujours. Donc, c'est ce sentiment qui est important.
Eh bien, nous allons poser aussi la question à une auditrice qui est à Madagascar et qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Alors, la maison individuelle, Chantal, c'est votre cas. Vous vivez aujourd'hui dans une maison individuelle à Antsirabe, la troisième ville de Madagascar ?
C'est bien ça.
Alors, Chantal, vous n'avez pas toujours vécu dans une maison individuelle, je crois.
Oui, là, ça fait 20 ans que j'habite dans cette maison individuelle, mais avant, j'ai habité 10 ans dans une HLM en France.
Et si vous deviez faire une comparaison, non pas du pays, mais de l'habitat ?
Bah, c'est pas comparable. C'est une autre vie quand on habite une maison individuelle. C'est vraiment autre chose, quoi.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, on n'est pas dérangé par les voisins, bien qu'on habite en centre-ville, on a toujours les bruits de la rue, mais sinon, on se sent chez soi, quoi. On est chez soi.
Alors, dans cette ville, la majorité des habitations, ce sont des maisons individuelles ?
Oui, à Madagascar, c'est plutôt des maisons individuelles, surtout dans une ville comme la mienne. C'est plutôt dans les plus grandes villes qu'il y a des appartements.
Est-ce que néanmoins vous percevez des nuisances dans cette option ?
Oui, disons l'inconvénient, c'est comme j'ai dit sur mon message hier, s'il faut partir plusieurs jours, on a toujours un petit problème pour la sécurité de la maison. Comment on va faire garder ? Et puis il y a aussi les problèmes d'entretien. Il y a beaucoup plus d'entretien pour la maison individuelle par rapport à l'appartement.
Néanmoins, je parlais d'options, mais dans une ville comme Antsirabe, ça n'est pas une option, hein, précisément, puisqu'il n'y a que des logements de ce type. Merci de nous avoir appelé, Chantal. Et bien sûr, vous continuez de nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71. Quand on voit aujourd'hui que dans un pays comme la France, Christine Lecomte, 80% des Français considèrent la maison comme le logement idéal. Est-ce que c'est la même chose partout, dans le fond ?
La même chose partout en
c'est
France, vous voulez dire ?
Non, je veux dire, est-ce que c'est ce rêve, il est partagé par presque tous ?
Alors, est-ce que c'est vraiment le rêve de la maison individuelle ou de l'espace qui correspond à nos aspirations ? Moi, je reviens là-dessus parce que je pense qu'il y a une différence entre le fond et la forme et qu'il y a une espèce de brouille qui s'est fait depuis plusieurs années sur ça, c'est-à-dire sur le fait que, comme on ne trouvait pas dans le cœur des villes exactement ce dont on avait besoin parce que les appartements n'ont pas pu évoluer, un peu figés dans le temps, trop petits, des pièces qui ne correspondaient pas à nos aspirations, avec des salons qui n'étaient peut-être pas assez grand, pas d'espace extérieur, eh bien, on est allé construire ailleurs ce qu'on ne trouvait pas au centre des villes. Et du coup, la manière dont on l'a fabriqué, qui s'est faite un petit peu sur catalogue, on a quand même 95% des maisons en France qui se font sans architecte, donc c'est vraiment de la maison de banalisation.
En dessous d'une certaine surface.
Non, là, je parle de... Oui, alors effectivement, mais en tout, ça fait 95% des maisons. La surface moyenne d'une maison individuelle en France, c'est 120 mètres carrés actuellement. C'est de plus en plus en baisse. Donc forcément, en dessous du seuil, pour faire appel à un architecte. Mais en dessous du seuil, on peut quand même faire appel à un architecte. Mais au-delà de ça, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire la question de la forme. Est-ce qu'on a besoin d'une maison individuelle pour se sentir chez soi ? Et je pense que, compte tenu des problèmes climatique qu'on retrouve à l'heure actuelle, du problème de l'étalement urbain, il va falloir se poser collectivement la question de comment on réhabite les villes ensemble, loin de cette pensée individualiste.
Mais par rapport au reste de l'Europe, comment se situe la France avec 56% des logements qui sont des maisons individuelles ?
On n'est pas super. Il faut le dire, on n'est pas super parce qu'on a quand même 3 millions de logements vacants en France qu'on n'habite pas et on continue à pratiquer l'étalement urbain.
Dans des centres-villes.
Voilà. Et donc,
et on continue de construire des petites maisons, des pavillons à l'extérieur des villes.
Exactement.
Ou en périphérie.
Exactement.
Mais par rapport à... Est-ce qu'il y a d'autres pays d'Europe où il y a beaucoup plus d'habitants qui vivent dans des appartements, dans des immeubles ?
Ah oui, tout à fait. Vous avez des pays, notamment dans l'Europe du Nord, où la manière d'habiter est pensée autrement. Ou même vous avez les coopératives coopératives de logement en Autriche ou en Suisse, où on travaille plutôt à savoir comment on va trouver des espaces partagés, des espaces communs, essayer d'élaborer des choses où on parle du parcours de vie, c'est-à-dire que...
Oui. Mais on vit quand même à l'horizontale ou à la verticale dans ces pays-là ?
Non, non, il y a quand même une grosse proportion à être sur de l'horizontalité. Mais en même temps, en France, on a encore fortement oublié de serrer le frein et de monter un petit peu un habitat légèrement plus dense.
Ouais. Armelle Choplin, en Afrique, on a le sentiment que finalement, il n'y a guère d'options. Hein. La plupart du temps, c'est la maison ou la maison.
Oui, alors je pense que c'est, il y a à la fois des traits qui sont communs avec ce qu'on peut observer en Europe, et après, je pense qu'en Afrique, en tout cas pour les pays d'Afrique de l'Ouest dans lesquels j'ai travaillé, on voit aussi que la maison représente beaucoup plus, c'est-à-dire que c'est un symbole de réussite. Par exemple, quand on part à la retraite, on peut recevoir des tonnes de ciment pour construire sa maison individuelle, vous voyez. Ça veut vraiment dire qu'on est quelqu'un de respectable. Et c'est aussi le premier pas vers l'autonomie, vers l'âge adulte, la maturité. Et on sait qu'on peut rester jeune très longtemps en Afrique. On peut être considéré jeune jusqu'à 40 ans, jusqu'à 45 ans. Et fonder un foyer, ça suppose d'avoir une maison, pouvoir sortir du noyau familial et de la famille élargie. Et donc, du coup, forcément, la maison devient autre chose que le simple fait d'avoir de l'espace. C'est vraiment très symbolique, puis c'est aussi un... très lié à la thésaurisation. On est quand même, si on prend les pays, la plupart des pays africains où il n'y a pas de couverture sociale, avoir une maison...
Et pas de retraite.
Et pas de retraite, en fait, ça permet d'avoir très souvent, quand on construit sa maison, on pense à construire aussi un petit espace locatif qui va en fait permettre d'assurer cette retraite. Donc quelqu'un qui arrive à la retraite et qui n'a pas fait construire, qui n'a pas son chez, comme on va dire au Bénin ou au Togo, bah, ne pas avoir son chez, ça veut dire ne pas vraiment avoir réussi sa vie. Parce que avoir ce petit espace locatif puis sa maison, c'est ce qui permet en fait de mettre tout le monde à l'abri. Donc c'est vraiment, et c'est pour ça qu'on est prêt à construire au jour le jour, à aller acheter un sac de ciment par-ci, du fer à béton par-là, et que c'est souvent le projet d'une vie, parce que contrairement plus à l'Europe, il n'y a pas vraiment l'appui bancaire où on va avoir des taux d'endettement, enfin des taux de crédit à 20% dans la plupart des pays ouest-africains, ce qui rend difficile c'est aussi...
On ne s'endette pas pour construire sa maison en Afrique, contrairement aux États-Unis.
Oui, disons que les taux d'emprunt sont tellement élevés que souvent les gens ne passent pas par les banques et vont construire du coup du jour au jour le jour, c'est brique après brique. C'est voilà, j'ai réussi à mettre 3500 francs CFA de côté, donc je vais acheter un sac de ciment, puis je le mets sur ma parcelle en attendant de pouvoir en acheter un deuxième, et puis je vais faire voilà un petit tour de parpaing, et puis j'attends de pouvoir construire encore après. Donc c'est pour ça que ça prend très souvent des années, et que les gens, quand le monsieur de Thiès disait tout à l'heure qu'il est fatigué, c'est aussi ça. C'est parce que c'est quelque chose qui occupe l'esprit quotidiennement. Les gens ne pensent pas à ça.
Fatigué, surtout ce que nous disait Mamadou à Thiès, hein, dont j'ai lu le message, c'est qu'il se demandait s'il avait fait la bonne option, le bon investissement, par exemple, comparé à l'investissement dans l'éducation de ses enfants. C'était la question qu'il posait, en tout cas. Hein. Aux États-Unis, aujourd'hui, dans quoi vivent les Américains majoritairement ?
Ah, ça, sans nul doute, dans la maison individuelle. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Les villes denses, bien entendu, on a tous en tête l'image de New York ou encore celle de San Francisco ou de Chicago, mais ce sont des exceptions. Hein. La grande majorité, et puis depuis les années 90, on dit bien que la société américaine est une société suburbaine. Donc c'est un point très important parce qu'on associe, bien entendu, la maison individuelle au processus de suburbanisation.
C'est la banlieue, la banlieue résidentielle.
Voilà, la banlieue qui s'étend à l'infini. Ça, je peux vous dire, j'ai vécu à Los Angeles et je suis allée pour la première fois dans les années 70, justement pour étudier le processus d'urbanisation aux États-Unis. Et à l'époque, le débat, les caractéristiques des médias véhiculaient le principe du gratte-ciel comme la caractéristique majeure de la ville américaine. Or, en fait, à Los Angeles, il n'y avait pas vraiment de skyline comme à New York ou à Chicago. Et ce qui m'a frappée, c'est qu'en fin de compte, on avait un tissu urbain qui s'étendait à l'infini, caractérisé par la maison individuelle. Et ce qui était fort, c'était qu'en fin de compte, on retrouvait la maison individuelle dans la ville comme dans la banlieue. Et puis, un autre point aussi qui est très important, c'est qu'en fin de compte, la maison individuelle, c'était les quartiers populaires comme les classes, comme les quartiers riches. Alors, vous voyez, ce n'était pas du tout le bâtiment, l'appartement, c'était la maison individuelle.
Ouais, avec une petite courette à l'arrière, selon qu'on a plus ou moins de moyens. Mais on voit bien quand même que ça ne coïncide pas, comme vous le dites, avec ce discours sur les gratte-ciel et qu'il y a réellement ce rêve de la maison individuelle. Mais comment il est né, en quelques mots, ce rêve de la maison individuelle aux
États-Unis ? Voilà, ce qui est très important de savoir dans le cas des États-Unis, c'est qu'en fin de compte, a émergé dans la seconde moitié du 19e siècle ce mythe de l'habité. Et ce mythe de l'habité, c'était la maison individuelle. Alors, on avait le discours des environnementalistes de l'époque. Hein, on est bien au milieu du 19e siècle. Ceux qui ont défendu le principe des parcs nationaux aux États-Unis pour préserver la nature, qui ont également défendu le principe du vivre à proximité de la nature et non pas en ville, mais dans la banlieue à proximité de la nature. Et puis, nous avons aussi les féministes domestiques, je dis bien domestiques, qui ont prôné la maison individuelle comme le cadre de vie idéal pour élever les enfants et pour, en fin de compte, que la femme détienne une sphère bien à elle.
Régner sur sa maison.
Voilà, c'est exactement ça. Et là, je peux citer le nom quand même de l'architecte qui a été à l'initiative de ce discours, Catherine Beecher. C'est très important et elle a eu une très grande influence. Son ouvrage « La maison de la femme américaine » a eu beaucoup d'influence dans les représentations, dans les mentalités, pour se représenter le mythe de l'habité.
Est-ce que vous pensez, Cynthia Gora, que ce rêve américain de la maison individuelle, c'est ce rêve qui a influencé le reste du monde ou pas ?
Je pense que d'une certaine manière, vous savez, on parle peut-être moins d'influence que de la circulation des idées. C'est-à-dire qu'en fin de compte, bien entendu, il y a la circulation des modèles. Alors, les architectes, les urbanistes peuvent emprunter dans différents pays et prôner un nouveau modèle. Donc, moi, je pense que oui, ça a influencé le débat dans le reste du monde. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au XXe siècle, quand on parlait des États-Unis, on parlait le siècle américain. Donc, je pense.
Et la crise des subprimes en 2008 a provoqué un effondrement du prix de l'immobilier avec, on s'en souvient, des expropriations dramatiques de ménages qui étaient surendettés pour acheter leur maison individuelle qui ne valait plus rien. 10 ans après, finalement, qu'est-ce qu'on a appris de cette crise pour penser l'habitat des villes, Cynthia Gora ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un tournant en défaveur, je dirais, de la maison individuelle à partir des années 80-90, avec un courant d'urbanisme qui s'intitule le New Urbanisme, qui a prôné la densification des lotissements résidentiels. Donc ça, c'était un point intéressant. Mais ces mêmes protagonistes de l'appartement plutôt que de la maison individuelle ont aussi, suscité un discours après la crise des subprimes, au moment de la crise des subprimes, en disant que c'était le mythe de la maison individuelle qui, en fin de compte, qui est responsable
du crack.
Du crack, si on peut utiliser ce terme. Donc, mais il faut savoir que c'est beaucoup plus ambigu que ça. Parce que là, on peut dire que, premièrement, les banques américaines n'ont pas fait attention à la solvabilité des gens qui empruntaient, des ménages qui empruntaient.
C'est toujours encore un peu le cas aujourd'hui.
Nettement moins. C'était pas là. Il y avait deuxièmement, il fallait savoir aussi que les banques ne disaient pas aux ménages que tout compte fait, le taux d'emprunt risquait d'augmenter. Et troisièmement, il y avait le mythe, ne vous inquiétez pas, le prix de votre maison individuelle ne fait qu'augmenter sur le marché immobilier. Or, la crise des subprimes, c'est justement les coûts de l'immobilier cesse de grimper et continue et commence à baisser. Ouais. Et donc, ça a été le début des expulsions et qui ont été très importantes. Il y a vraiment eu une crise sociale, je dirais.
C'est ça. En tout cas, l'habitat peut générer être à l'origine ou être la conséquence de crises sociales. Est-ce que la crise des Gilets jaunes, Christine Lecomte, en France, c'est la crise de l'étalement urbain ? Où on galère pour payer son gazole de voiture parce qu'on fait des kilomètres pour aller travailler. On galère pour chauffer sa maison aussi parce que ça coûte plus cher, parce que la maison est mal isolée, parce que chauffer une maison individuelle, c'est plus coûteux que de chauffer un appartement.
Alors bien évidemment, hein, les spécialistes de l'urbanisme y ont tous pensé, hein, surtout en France, déjà parce qu'on s'est retrouvés sur des ronds-points. Donc c'est pas vraiment exactement le lieu de l'espace public le plus fort, c'est le lieu de la voiture. Donc ça marque bien qu'il y a une différence entre la construction de la ville, qui se fait autour de l'espace public des équipements depuis quelques années, et puis ce qu'on découvre là, qui est l'étalement urbain, qui est finalement la monofonctionnalité des villes avec une seule typologie, et qui est c'est effectivement... ces lotissements, ce pavillonnaire, etc. Donc on n'est pas étonné de les retrouver là, mais surtout, ce qui est fou, c'est que dans les réponses qui sont proposées, on ne retrouve pas l'importance de l'aménagement du territoire et l'importance d'avoir une vraie stratégie d'aménagement du territoire. Maintenant, on est encore dans des politiques très schizophrènes où on autorise l'étalement urbain, puisqu'on ne limite pas l'artificialisation des sols à l'heure actuelle, même si le président commence un petit peu à en parler, il va falloir des politiques fermes. Et en même temps, on nous dit, et on met beaucoup d'argent, sur la réhabilitation des cœurs des villes, mais sans forcément pouvoir le faire, puisque de l'autre côté, on donne toujours la carotte pour aller plus loin dans l'étalement urbain. Donc on ne répond pas à la vraie question, et ça ne sera pas à coup de primes sur le carburant, etc., qu'on va résoudre un problème de mobilité, et puis aussi de... Ce qu'il faut voir par l'étalement urbain, c'est le coût pour les services publics, pour amener tous les services publics auprès de nos concitoyens.
C'est ça, j'allais vous poser la question aux unes et aux autres. Quelles sont les conséquences finalement de ce rêve auquel chacun court d'avoir sa maison? Donc l'étalement urbain, par définition, si on ne construit que à l'horizontale, bah, la ville s'agrandit à l'horizontale. Quelles sont les conséquences sur la vie quotidienne des habitants dans les différents pays dont vous êtes spécialiste? Sur l'Amérique?
Oui, alors bien entendu, le temps, les trajets en voiture, c'est extrêmement important. Et c'est, si vous voulez...
On a des Américains qui ont 2 heures, 3 heures de trajet en voiture par jour. Hein.
Oui, non, c'est sûr.
C'est pas rare.
C'est pas rare et c'est un véritable souci. Et puis, il faut savoir aussi qu'en fin de compte, pour les différentes activités des enfants, il y a toujours... une personne, c'est généralement la femme, qui doit accompagner les enfants aux différentes activités et parfois souvent aussi à l'école, donc le matin et l'après-midi. Donc, je veux dire, c'est un souci.
Mais c'est les Américains qui choisissent d'avoir une maison individuelle. Est-ce que c'est par contrainte financière ou parce que, par exemple, si on prend le cas de Washington, beaucoup d'Américains disent « mais c'est très très cher de se loger dans Washington ». Certes, c'est peut-être pas le bon exemple, c'est une ville à part, c'est la ville du pouvoir politique, mais les Américains veulent beaucoup d'espace aussi pour vivre, non ?
Ça, c'est vrai. Ils veulent beaucoup d'espace, ça c'est évident. Mais je dirais qu'il y a un aspect à prendre en compte. C'est qu'en fin de compte... Quand on habite en banlieue, et c'est la raison pour laquelle, quand on a des enfants, on souhaite habiter là en banlieue, c'est qu'en fin de compte, les écoles publiques dans les banlieues ont meilleure réputation que les écoles publiques dans les villes. C'est un point extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, les écoles bénéficient de la taxe foncière. Et alors, les écoles dans les villes ont moins de ressources que les écoles dans les banlieues. Donc ça, c'est un point aussi à prendre en considération.
Parce que les centres-villes sont aussi avec des personnes qui ont moins de revenus, donc qui payent moins d'impôts sur les taxes foncières, non ?
Tout à fait, il y a ce point à prendre en compte, c'est clair.
Sur la France, il y a clairement un problème d'accès au logement. Le coût du logement est devenu cher dans le budget des Français. Vous disiez que la taille des logements s'est réduite, mais en même temps, à Christine Lecomte, depuis la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde n'a cessé de vouloir habiter dans plus grand globalement quand même.
Oui, alors le coût du logement réduit parce que en fait les moyens des Français se réduisent aussi par rapport au coût du foncier. C'est-à-dire qu'on a un phénomène aussi de métropolisation en France hein, qui est assez fort. On veut habiter plus près du travail et finalement plus on se rapproche des centres des villes et des grandes villes, et c'est de plus en plus fort, hein, plus le terrain coûte cher, donc moins on peut acheter grand. Et même sur la maison, on a une diminution forte qui s'est faite, puisque ce que je disais tout à l'heure, 126 mètres carrés, mais sur un appartement, on a perdu 10% pratiquement de la taille d'un logement. Et à l'heure actuelle, en Ile-de-France,
on a perdu une pièce en 10 ans, c'est ça ?
Une pièce en 10
alors
ans.
Alors qu'on avait cessé de progresser, d'agrandir nos logements depuis la Deuxième
mais
Guerre
je vais
mondiale.
Vous donner,
parce qu'il faut bien se remettre dans le contexte que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, les enfants logeaient tous dans la même chambre, hein, voilà. Quels que soient les milieux, c'était pas considéré comme un problème.
Il y a quelques années, vous pouviez fermer votre cuisine dans un logement à présent, il est difficile de fermer sa cuisine puisqu'elle fait partie intégrante du salon. Et pour vous donner un exemple, avant on disait 30 mètres carrés de salon, 8 mètres carrés de cuisine. Maintenant, on a des 18 mètres carrés salon plus cuisine en nous vendant la cuisine à l'américaine, mais qui finalement est un argument un petit peu marketing. Moi, je pense que la cuisine doit pouvoir être fermable. Si elle n'est pas fermable, c'est déjà un souci. Ça veut dire qu'on a retiré une pièce.
On perd de la surface. Aux États-Unis, on ne perd pas vraiment de surface encore, hein, parce qu'on a rebondi après la crise.
Pas encore, sauf peut-être dans les lotissements New Urbanisme. Donc, dans ces lotissements, en fin de compte, vous avez d'une part des appartements, c'est-à-dire qu'il y a des petits bâtiments résidentiels avec des appartements et le jardin autour. Et puis, vous avez des maisons individuelles qui sont légèrement plus réduites. Parce qu'en fin de compte, on part du principe que le sol, le foncier, c'est une denrée rare. C'était du moins le principe des architectes et des urbanistes de ce courant.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous parlons de l'habitat, du rêve quasi international de la maison individuelle. Est-ce un rêve pour les familles? Est-ce un cauchemar pour les villes? On essaye de penser à la fois individuel et collectif, hein, puisqu'il faut bien aussi vivre ensemble. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards le voisin.
Ouais. 7 milliards le voisin.
Tout le monde est voisin.
Nous sommes en ligne avec un voisin qui nous appelle de Kinshasa en RDC. Bonjour Cyprien.
Bonjour à toutes les voisines, bonjour à tous les voisins.
Cyprien, vous êtes propriétaire depuis une dizaine d'années d'une maison dans le quartier de Kogelos, qui est un quartier de la commune de Mont-Ngafula, hein, si je ne me trompe pas, au sud de Kinshasa. Vous êtes tout près de l'université de Kinshasa.
Oui, je suis effectivement propriétaire depuis 10 ans et c'est un bonheur de vivre chez soi à Kinshasa parce qu'il y a beaucoup de harcèlement. Quand on est locataire, on est obligé de déménager tout le temps. Il y a du bonheur à vivre chez soi parce qu'on peut avoir son petit jardin, on peut vivre avec ses animaux de compagnie, le chien, le chat et tout ça. Mais il y a un prix à payer.
Ah,
il y a un prix à payer et notamment pour ce qui me concerne. Moi, j'habite un quartier qui a été à l'origine dédié aux professeurs de l'Université de Kinshasa. Et donc, j'ai pu avoir quand même un terrain et construire. Mais la grosse difficulté, ce sont justement les eaux qui viennent de l'Université de Kinshasa et qui ne sont pas gérées de manière responsable et qui créent à la suite beaucoup de problèmes d'érosion. Parce que nous sommes en hauteur et comme il n'y a pas de canalisation, ce sont plus les maisons qui payent le prix et, ainsi que les routes. Et en définitive, parfois on se demande si on a fait les bons choix de quitter le centre-ville pour venir habiter un peu plus loin, un peu plus loin de la ville.
Vous avez quitté le centre-ville pour avoir plus grand, j'imagine?
Oui, pour avoir plus grand et plus
et le jardin.
Aussi,
oui. Ouais. Et quelles conséquences de ces eaux mal évacuées de l'université? Ça veut dire quoi concrètement chez vous, sur votre parcelle?
Ça veut dire pour moi pas de problème immédiat, mais c'est des eaux stagnantes sur les voies publiques,
ouais.
qui ne sont pas écoulées. Et ça crée des moustiques, ça crée des maladies. C'est aussi des eaux qui créent des érosions, parce que comme je disais, nous sommes en hauteur, et les gens qui vivent un peu plus bas que chez nous, parfois c'est des murs qui tombent sur des familles, et c'est vraiment désolant.
Et vous avez l'eau courante chez vous, Cyprien?
Malheureusement, j'ai dû quitter là où il y avait de l'eau pour venir habiter où il n'y a pas de l'eau courante. Notre quartier n'est pas encore branché à la régie des eaux, au réseau de distribution d'eau. Et nous sommes obligés de vivre avec l'eau de pluie.
La régie des eaux, qui est donc l'organisme public, hein, de distribution d'eau, qui est d'ailleurs concurrencé par d'autres organismes, notamment de gestion commune. Mais ça veut dire que concrètement, vous allez à une borne fontaine tous les jours?
Heureusement, dans le voisinage, quelqu'un a dû créer un forage des Pères Jésuites, Fondation Monseigneur Mouziroua. C'est là que nous allons puiser de l'eau, au moins pour boire et pour la cuisson.
Un forage qui est légal ou pas, ce forage?
Oui, un forage qui est légal. Ouais. Mais pour le reste, nous vivons avec un puisard. Donc, nous recueillons l'eau de pluie qui va dans le puisard. Et puis, nous avons une pompe qui ramène dans une citerne. On peut alimenter la maison, avoir de quoi se laver et de quoi nettoyer la maison et utiliser pour les toilettes.
Donc, le prix à payer, pas d'eau courante, alors que vous aviez de l'eau courante quand vous habitiez autrefois en centre-ville.
Oui, quand j'étais locataire, oui.
Locataire. Centre-ville que vous avez déserté pour être propriétaire, mais également pour des raisons de sécurité ou pas spécialement?
Bon, non, pour des raisons de sécurité, non. C'est juste éviter ces difficultés chaque jour, le loyer qui monte, et puis le fait que vous devez déménager, vous abîmez vos mobiliers, ça ne sécurise pas.
C'est ça, là maintenant vous vous sentez davantage en sécurité malgré tous ces problèmes que vous venez de citer. Votre temps de trajet pour aller travailler aujourd'hui, Cyprien?
Oui, ça c'est misérable. Je suis obligé de quitter très tôt. Donc, ces derniers temps, je quitte la maison à 5h30 ou 5h45 au plus tard. Comme je dois rédiger la revue de presse, donc je veux que les collègues la lisent au moins à 8h30. Donc, j'ai 2 heures pour ça. Ça ne me gêne pas le matin.
Attendez, vous avez 2 heures de trajet le matin?
Non, le matin, j'ai 45 minutes.
45 minutes, d'accord.
45 minutes de trajet. Mais le plus difficile, c'est le retour au soir. Surtout si vous commettez la bêtise de quitter le centre-ville à 18h ou à 19h.
Et vous êtes tous dans le même cas, rentrez tous dans vos maisons individuelles à l'extérieur.
Nous rentrons tous dans nos maisons, nous rentrons dans nos dortoirs et ça peut nous prendre entre 2h30 ou 3h de bouchon. Et parfois, les routes, parce que comme pour le moment, il y a plein de travaux, parfois vous rentrez du travail, vous trouvez que la seule route qui vous reste a été bouchée, a été barrée, pardon. Elle a été barrée parce qu'il y a des travaux, on ne vous avertit pas. Et là, vous êtes complètement désemparé. Il faut essayer de chercher des contours à gauche, à droite. Et ça, c'est désagréable.
Merci beaucoup de nous avoir appelé, Cyprien. Votre témoignage est édifiant et très clair. Et effectivement, aviez-vous d'autres options? On peut se poser la question, ou plutôt, est-ce que ce sont les pouvoirs publics qui auraient peut-être dû penser la ville autrement? Armelle Choplin, vous qui travaillez sur les villes africaines, que vous évoque le témoignage de Cyprien à Kinshasa?
Bon, alors c'est un témoignage à la fois... Enfin, qui est très, très commun. C'est vrai que là, vous soulignez un point, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choix qui sont faits, des choix politiques qui sont faits en Europe sur le tout automobile ou en Amérique, et puis des choix aussi dans ces villes africaines où finalement, eh ben, comme il n'y a pas de politique de logements sociaux, alors on fait aujourd'hui des logements dits sociaux, mais souvent c'est pour des petits fonctionnaires qui peuvent emprunter à la banque, donc c'est pas pour tout le monde. Donc les gens n'ont souvent pas d'autre alternative que de construire en périphérie. Et là, ils rejoignent finalement les attentes aussi des maires des communes périphériques qui très souvent n'ont pas d'argent, on le sait bien, les communes sont très déficitaires, ont souvent du mal à payer leurs employés, et qu'est-ce qu'elles font? La seule chose qui permet de récupérer de l'argent aujourd'hui quand on est un maire ou des élus, c'est de distribuer des terrains, c'est-à-dire de lotir, faire des lotissements, et c'est pour ça que voilà, on va lotir dans des zones même qui sont insalubres, inconstructibles, même si on le sait, et on va lotir, ce qui permet d'avoir des rentrées d'argent assez facilement.
En vendant les terrains.
Conséquence.
Avec des titres de propriété, ce qui devient...
Souvent, il y a des titres de propriété, ou alors il y a évidemment ce qu'on connaît bien en Afrique, la dualité entre le droit coutumier et le droit foncier légal, où voilà, on va avoir des chefs coutumiers qui vont aussi distribuer, vendre des terrains, tout en sachant qu'ils ne sont pas forcément constructibles. Et après, sur l'histoire d'un quartier qui n'a pas d'eau, on sait très bien que la ville et les services publics mettent beaucoup de temps à rattraper l'urbanisation en Afrique.
Et l'étalement urbain, parce que la croissance urbaine est plus rapide que le...
Par exemple, dans certaines communes, ils ont déjà tout loti. Et en fait, même au pouvoir central, on ne sait même pas que c'est déjà loti. Donc, le temps que les services publics arrivent, que ce soit l'eau ou l'électricité, se développent des forages privés pour l'eau, des écoles privées pour l'éducation. Et du coup, ça devient beaucoup plus cher que si on avait droit aux services publics en centre-ville. On paye le mètre cube d'eau beaucoup plus cher en périphérie en général que si on le payait en centre-ville. Les écoles, de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est forcément privé. Et l'effet de rattrapage se fait très souvent beaucoup plus tard.
Christine Lecomte, évidemment, vous êtes la présidente de l'Ordre des architectes d'Île-de-France. La situation n'est pas comparable. Néanmoins, je vous ai vu pas mal réagir et noter tout ce que nous disait cet auditeur.
Oui, il y a beaucoup de choses. Parce que, par exemple, moi j'ai noté 3 points sur le mouvement pendulaire. Par exemple, il y a quelques années, vous regardiez une porte de la façade de la maison individuelle individuelles, il y avait un garage. Maintenant, il y en a trois. Deux, trois sur les catalogues des maisons individuelles. Ce qui prouve bien que la voiture a pris une place plus grande que finalement l'être humain dans, le même, dans la maison même, dans la façade de la maison même. Et puis, ça nous questionne sur...
Voiture, attendez, indispensable dans des endroits où il n'y a pas de transport public.
Bien sûr, que c'est ce soit un sur constat. Et pourquoi
des périphéries de villes moyennes en France ou en Afrique.
Alors, on a fait le comparatif. Hein, pour amener la même dose de services publics en centre-ville et en ville étalée, c'est pratiquement de 1 à 10 pour les pouvoirs publics en termes de coûts en France.
Donc ça veut dire que des villes qui se sont étalées, c'est irrattrapable. On ne peut même pas imaginer attendre une mise en place de transport public.
C'est pas comme ça qu'il faut le prendre. C'est-à-dire que maintenant, il faut arrêter d'étaler et il va falloir régénérer ces lotissements. Et à partir du moment où on pourra amener plus de population ici, on pourra donner les mêmes accès aux transports publics, aux poubelles, à l'assainissement, etc.
Comment on peut régénérer de l'étalement urbain, Cynthia Gorin-Gobin ?
Oui, la question est simple, mais en fin de compte, la réponse est très difficile. Alors, régénérer, c'est déjà, si vous voulez, permettre la construction de nouveaux logements. Donc, il faut être assez astucieux pour trouver l'espace qu'il faut pour pratiquement construire soit une maison à proximité d'une maison individuelle existante, soit trouver, en fait, des terrains qui permettent d'avoir des appartements, mais quand même des petits immeubles de 3 ou 4 niveaux. Donc il faut déjà densifier. Je sais qu'on n'aime pas beaucoup ce terme densifier, parce que densifier, ça rappelle de la ville alors qu'on n'est pas dans la ville. Mais c'est cette idée-là qui est pratiquement importante.
Alors densifier, donc, ceci, on a pas mal de messages d'auditeurs qui nous disent, mais la maison individuelle, on a des nuisances sonores assez terribles, par exemple. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on a comme avantage avec la maison individuelle? On n'a pas forcément les avantages qu'on pourrait imaginer de tranquillité avec la maison individuelle. On va parler maintenant de la qualité, de la durabilité. Une maison à 150 000 euros en France, un pavillon moyen, ça dure combien de temps ?
Ça, on ne peut pas faire une généralité, mais on va dire qu'en ce moment, comme c'est des produits de consommation, il y a une forme d'obsolescence programmée qui est faite, ça c'est clair. Et puis on utilise encore des matériaux qui sont des ressources non renouvelables. Moi je pense par exemple au sable. Le sable, on en a utilisé tellement au XXe siècle que c'est une ressource dont il va falloir vraiment se préoccuper fortement.
Pour le ciment.
Voilà, pour le ciment et pour le béton ou tout ce qui est de ce type. Non, ce qui est important, ça va être de changer le modèle de fabrication de la maison rapidement, parce qu'effectivement, c'est plus un bien qu'on peut laisser à ses enfants aussi en bon état qu'avant. L'entretien coûte cher, et comme en plus il faut rajouter les voitures, etc., etc., on en vient à moi ce que j'appellerais presque de la précarité, comme des copropriétés dégradées horizontales. Et c'est un peu l'alerte qu'on fait
sur les copropriétés dégradées horizontales,
oui.
C'est-à-dire en gros des bicoques.
Écoutez,
mal construites, mal isolées, c'est ça?
Pas forcément mal isolées, mais pas assez isolé par rapport à maintenant, et surtout avec une précarité énergétique. On a quand même 5 millions de Français qui sont en précarité énergétique à l'heure actuelle. C'est 70%...
C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas payer leur note de chauffage.
Voilà. 70% des Français qui disent qu'ils ont froid en France habitent des maisons individuelles. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se chauffer autant qu'ils le pensent parce que ça coûte trop cher, et pourtant l'énergie n'est pas si chère en France par rapport à ce qu'elle devrait l'être. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, ces personnes-là n'ont pas assez d'argent pour l'entretien.
Alors justement, nous sommes en ligne avec Boubacar Willy, qui est coordinateur d'une ONG qui s'appelle La Voûte Nubienne, qui a été créée au Burkina Faso par le Français Thomas Granier. Vous êtes bien en ligne avec nous, Boubacar Willy ?
Oui, je suis là, je suis en ligne.
On parlait de durabilité, de qualité de l'habitation. Les villes africaines, là on parlait de la France, mais les villes africaines, je pense que Armel Choplin ne nous contredira pas, c'est du ciment, du ciment, du ciment. On construit beaucoup avec des parpaings. Vous, dans cette ONG, vous proposez un autre type de construction. Quelles sont les caractéristiques de ces maisons construites par la voûte nubienne dans certains territoires, dans certaines villes africaines, notamment au Burkina Faso, mais aussi au Bénin, au Mali, au Ghana, un tout petit peu aussi au Sénégal?
Ok, la voûte nubienne, c'est d'abord un concept architectural à la fois ancestral et innovant. Une technique de construction sans usage de bois ni tôle. C'est la terre crue qui est utilisée comme matériau, principalement. Donc la terre est largement disponible aujourd'hui en Afrique sahélienne, un peu partout. Et c'est des bâtiments qui sont confortables, durables et accessibles au plus grand nombre.
Et quels avantages pour les habitants qui habitent dans une maison voûte nubienne ?
Pour quelqu'un qui vit dans une voûte nubienne, d'abord, quand il fait chaud, à l'intérieur, la température est ambiante. Et quand il fait froid aussi, la température est adaptée. Donc, ça est déjà
concrètement, ça veut dire quoi ? Par rapport à une maison classique, construite en parpaing, ça veut dire qu'il y a combien de degrés en moins dans une maison qui est construite
oui,
en terre, avec ce toit en terre, avec cette voûte aussi plus haute de plafond, etc.
Ok, on a autour de 10% de température par rapport à la construction en parpaing et tout.
Ça veut dire que s'il fait 35 degrés dehors, vous pouvez avoir quoi, combien de degrés
dehors, 35 dehors et tu as 25 à l'intérieur.
Ah oui, appréciable. Voilà. Les coûts, voilà. On en parlait parce que Christine Lecomte disait qu'il va falloir qu'on construise autrement aussi les habitats en France. Ça revient plus cher de se faire construire une maison voûte nubienne dans une ville africaine?
Oui, dans une ville africaine, ça devient cher parce que les matériaux qui rentrent dans la construction sont hors de la ville, il faut les transporter. Donc, le transport va augmenter le coût des bâtiments par rapport au parpaing tôle. Par contre, au village, la terre est disponible, le coût est 60% moins cher que parpaing tôle. Donc, c'est plus abordable en milieu rural qu'en milieu urbain.
Aujourd'hui, il y a suffisamment de maçons qui sont formés pour construire de cette façon-là, où ce n'est pas le problème de la cherté des matériaux, mais c'est l'exigence de main-d'œuvre, de maîtrise de la technique.
Oui, je peux dire aujourd'hui, l'association La Voûte Nubienne a permis la formation d'environ 1500 maçons, artisans et entrepreneurs burkinabés qui travaillent. Ils travaillent au Burkina, au Sénégal, au Bénin et au Ghana. Donc, la stratégie aujourd'hui, au regard de la demande qui ne fait qu'augmenter, la stratégie aujourd'hui est tournée vers l'amélioration
de l'habitat.
Du nombre de l'habitat et l'amélioration de l'offre.
Merci beaucoup, Boubacar Willy, coordinateur. Bien sûr, on vous écoute, Armel Choplin.
Non, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que même si on veut aujourd'hui construire avec des matériaux locaux, en fait, c'est très difficile pour les gens, d'abord parce qu'il y a un surcoût, il l'a dit tout de suite, mais c'est aussi qu'il y a une concurrence telle, pour avoir travaillé sur le ciment dans la région, qu'en fait, il y a des dépôts de ciment partout. C'est aujourd'hui la nouvelle frontière du ciment, c'est en Afrique. On pense qu'à peu près, on va dire, un pays qui a une maturité en niveau de construction, c'est 500 mètres cubes par habitant. Alors, en Afrique, on est à 81 mètres cubes par habitant, vous voyez, sur des pays comme le Burkina, comme le Bénin. Ça veut dire qu'il y a une énorme marge de manœuvre
et de progression,
d'augmentation
de chiffre d'affaires. C'est ça.
Donc
une politique commerciale très, très agressive aussi de la part des cimentiers.
Donc en fait, ils sont partout. Ils sont dans toutes les périphéries. On trouve des sacs de ciment aujourd'hui dans les périphéries des villes africaines plus facilement que des sacs de riz. Et donc forcément, pour les gens, même si leur rêve, et même s'ils savent qu'ils construisent une maison dans laquelle il va faire extrêmement chaud, ils vont certainement dormir dehors, parce que c'est quand même le comble de la plupart des Africains qui habitent dans des maisons en ciment aujourd'hui.
Ah bon ?
C'est qu'en périphérie, ils dorment à l'extérieur tellement il fait chaud. Parce qu'avoir une maison en ciment, ça veut dire qu'il faut avoir au moins un ventilateur, parce que sinon on ne peut pas tenir dedans.
Ouais.
Donc on se retrouve avec des gens qui ont construit en ciment, qui ne peuvent pas vivre dedans, mais qui finalement...
ventilateur, il faut l'électricité, on ne parle même
pas
de
la climatisation. Il faut l'électricité, et du coup on va tirer les fils par des toiles d'araignée parce qu'il n'y a pas le courant. Enfin, c'est tout un... Voilà, c'est en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas du tout durable sur le long terme.
Bon, les cimentiers, on se rend bien compte. Alors, juste un petit mot de conclusion, Cynthia Gora-Gobin, après avoir donné la parole à Maggie Casal au téléphone. Oui, on se rend bien compte quand même qu'on marche sur la tête.
Oui, c'est-à-dire que la grande difficulté, pour répondre à la question, la grande difficulté, c'est que nous avons ce mythe de l'habité urbain associé à la maison individuelle, le jardin, et après, plus tard, la voiture.
Et ça ne peut pas coller.
Et ce mythe est tellement fort, il a tellement imprégné nos représentations, qu'en fin de compte, le travail aujourd'hui, c'est de dire que ce mythe n'était peut-être pas le meilleur, et qu'en fin de compte, nous devons construire un autre mythe. Et c'est ça la difficulté.
On va donner le mot de la fin à Maggie Casal, qui est présidente de l'ONG Urbanistes sans frontières. Bonjour.
Oui, bonjour.
On vous a au téléphone parce que la semaine prochaine va se dérouler à Paris un forum qui s'appelle Afrique Ville Durable, en vue de la préparation du sommet Afrique-France de 2020 sur la ville durable. Il y a encore quelques années, me semble-t-il, hein, les villes n'étaient pas un sujet de haute diplomatie politique qui aurait pu avoir sa place dans un sommet.
Oui, tout à fait. Alors d'abord, on va dire que merci au président Macron, puisque c'est lui qui a lancé le thème de la ville durable pour l'Afrique lors de son discours du dernier sommet qui a eu lieu donc à Burkina Faso d'ailleurs, donc à Ouagadougou le 28 novembre 2017. Donc alors le prochain sommet Afrique-France qui aura lieu l'année prochaine, ça sera en juin, entre le 6 et le 5 et le 6, ça sera à Bordeaux. L'année prochaine, donc, sur le thème de la ville durable. Alors, le pourquoi ? Parce qu'on a constaté, à la fois techniquement et politiquement, que l'Afrique est le continent le moins urbanisé aujourd'hui, mais qui dispose d'importants potentiels d'urbanisation. Les défis du développement urbain en Afrique sont considérables aujourd'hui, y compris en termes économiques et humains, et surtout l'effet sur l'environnement et le changement climatique. Et puis il y a l'autre événement, c'est-à-dire la démographie en Afrique. En 20 ans, l'Afrique ne sera pas l'Afrique d'aujourd'hui. Les 5 plus grandes villes du monde seront en Afrique dans 20 ans. Et à la fin de notre siècle, l'Afrique sera le continent le plus peuplé.
Merci beaucoup Maggie Casal, évidemment le rendez-vous est pris et c'est un dossier que nous allons suivre et qui nous intéresse tout particulièrement avec les voisins et les voisines chez 7 milliards de voisins. Cynthia Gora-Gobin et Christine Lecomte, un mot de conclusion justement sur cette ville durable, parce qu'on voit bien finalement que partout sur la planète, on n'a pas cité tous les pays et tous les continents, mais néanmoins, qu'est-ce qu'on va faire pour sortir de ce mauvais pas, pour repenser autrement la ville durable, Christine Lecomte?
Je peux rebondir sur ce que disait Cynthia tout à l'heure, c'est-à-dire que le modèle, moi je pense que les jeunes commencent à le faire changer et qu'il y a une vraie compréhension de l'importance de ne pas forcément penser le mythe de la maison individuelle dans sa forme mais plutôt dans l'usage et qu'est-ce qu'on a envie de partager, qu'est-ce qu'on peut partager ensemble, comment on retrouve du lien social. Et en fait je pense que le rôle de la ville c'est de faire du lien entre nous, donc c'est même l'enjeu majeur du siècle, c'est retrouver des liens physiques pour que ces lieux que l'on fabrique au quotidien nous permettent de comprendre pourquoi on doit vivre en proximité les uns des autres. C'est le rôle de la politique après tout, hein. Politique, police, la cité, c'est de favoriser le lien urbain. Et ce lien est l'osmose avec la nature, fabriquer un écosystème où quand on fabrique quelque chose, on ne fait pas du mal à la nature, qui est faire du mal à nous-mêmes et à la terre. Je pense que c'est essentiel. Et les architectes travaillent dans ce sens-là de plus en plus en ce moment.
Encore faut-il qu'il y ait une prise de conscience de la part des politiques, des décideurs, des élus locaux, des plans d'urbanisation, etc. Cynthia Gora-Gobin, on en est loin pour les États-Unis.
Non, c'est-à-dire ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est qu'au niveau local, je dis bien au niveau des villes, au niveau éventuellement des États fédérés, il y a une prise de conscience du fait qu'il faut d'abord faire face au changement climatique et il faut aller vers le modèle de la ville durable. Donc c'est un discours complètement différent de ce qu'on entend au niveau fédéral. Donc ça, il faut bien prendre conscience de ce fait. Un autre point, il faut savoir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les nouvelles générations ne sont pas aussi... C'est pas comme la génération des années 50-60 qui aspirait à ce qu'on appelait l'American Way of Life. Elles n'ont pas ce désir de maison individuelle. Mais d'un autre côté... Il est vrai que, encore une fois, aux États-Unis, vous avez, il revient moins cher d'habiter dans la périphérie parce qu'on a une plus grande superficie qu'en ville.
Exactement.
Quoi.
Et ça, ce point est ensuite, important. Il y a quand même des choix pragmatiques, hein, malgré les désirs des familles. Merci en tout cas à vous toutes. Armelle Choplin, vous étiez en duplex à Genève. Merci à vous, Cynthia Gora-Gobin, spécialiste des États-Unis. Merci à vous, Christine Lecomte, architecte. Et merci à toute l'équipe. Demain, on se retrouve 7 milliards de voisins. On parlera des révisions d'examen. Quelle méthode pour réviser ?